et bienvenue dans mes carnets sonores. Je m'appelle Chloé et je vous emmène dans ma vie paysanne et créative. Ça fait bien longtemps que je vous ai pas parlé. Il y a plusieurs raisons. Ça a été une période très chargée au niveau du travail parce que je finis tout juste mes annuelages. Ça a commencé en janvier, enfin mi-janvier. Et beaucoup de travail parce que beaucoup de bêtes à l'annuelage, 110, un lot de 110. Et beaucoup de doubles, de naissances de doubles, ce qui est plutôt bien, mais ce qui demande une attention un petit peu plus particulière. Donc voilà, je vous avais parlé en décembre, je crois, la dernière fois. Et je vous reprends là par une belle journée de printemps, l'herbe est toute verte, il y a les pissenlits en fleurs. Il y a les merisiers en fleurs aussi, les aubépines. Donc c'est bien agréable, ça fait printemps, ça remonte le moral et c'est agréable. Donc là je viens de changer mes mâles avec Lopi, mon chien de conduite de troupeau. Donc c'est un petit lot, donc ça s'est très bien passé. J'ai encore un peu de mal sur les lots un peu gros. Donc notamment mon premier lot d'agnelage où il y a quand même 110... une centaine de brebis plus les agneaux, ça fait du monde à déplacer. Et dans les chemins, en fait, il faut que le troupeau s'étale, en fait. Et Lopi a beaucoup de mal à rester derrière. Il a beaucoup de mal à pas me voir, à travailler sans me voir, en fait. Donc voilà, les gros lots, je fais avec Hugo, mon compagnon, et Lopi, mais pas tout seul, quoi. Mais là, les petits lots, mes petits lots de mâles et mes petites femelles, ça va très bien. On a recadré des choses à une journée de rencontre entre éleveurs qui utilisent des chiens de troupeau. Donc ça, c'est intéressant. Et puis sinon, ça a été pas mal chargé au niveau changement. Il y a des gros changements sur la ferme. Des choses qui devaient arriver, qui finalement sont pas arrivées. D'autres qui ont été mises en place mais qui vont se défaire. Donc voilà, ça a été une période de remise en question, de doute et je dois bien dire de démotivation. Comme j'avais pas vécu depuis longtemps. Mais voilà, là on est reparti... Je pense que le printemps, il fait beaucoup. On a de nouveau de l'énergie et de nouveau des projets. Alors, rien de bien grandiose et pas de projet révolutionnaire, mais peut-être une... Alors, à long terme, une bergerie autoconstruite en bois. Parce que, avec le nombre de brebis que j'ai actuellement, savoir 160 mères, eh ben, je me rends compte que mon installation, mon tunnel, elle commence à être un peu limitée. J'ai envie de travailler aussi sur l'herbe de mes champs, donc de plus réfléchir à mes prairies, d'être encore plus carré sur mes rotations de pâturage, voilà, pour vraiment valoriser l'herbe au maximum en fait, pour essayer toujours de continuer de faire de l'agneau d'herbe, malgré les années de plus en plus difficiles en fait pour l'agneau d'herbe, quoi. Du fait des sécheresses estivale voire hivernale, il y a pas mal de choses à repenser, à recadrer, et donc là on est un petit peu là-dessus, quoi. Oups, j'attrape le sel. Voilà. Donc voilà, au niveau de la ferme, le maraîchage, c'est reparti à fond. Pareil, un début de saison pas si mal, mais quand même des grosses frayeurs. Il y a eu beaucoup de vent il n'y a pas très longtemps, donc on a bien amarré tout ce qui était un peu bancal, on a bien bouché les trous, bien bricolé pour que ça tienne. Ça a tenu, il y a juste quelques arbres qui sont tombés sur des clôtures, mais rien de bien grave. Et les poules, ça va. Gros morceau sur la biosécurité aussi cette année. Il y a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Plein de choses. Le savon, ça va. Donc il y a d'ailleurs c'est pas fini encore, une période de travaux. Donc la production s'est arrêtée. J'ai arrêté en octobre, je crois, les derniers savons. Ouais. Et puis là, je reprends petit à petit parce que y a encore du lait sur les laitières. Et voilà. Mais la savonnerie n'est pas tout à fait prête, quoi. J'ai encore des choses à faire. Mais bon, ça prend forme. J'ouvre juste ma porte. Parce que là, j'ai changé les béliers. Donc, je vais pouvoir démonter les filets. Attendez. Voilà. Je vais pouvoir démonter les filets et puis leur ramener le sel et les minéraux. Et là, je suis dans un champ qui est super joli. C'est un champ qu'on a depuis 2-3 ans. Qui était nouveau. Et il y a deux mares dans ce champ. Il y a un magnifique saule qui est les pieds dans l'eau. Enfin, c'est super, super beau. Bon, on va descendre au filet et puis je vous reprends. Voilà. Et donc, au niveau personnel, pas grand-chose, j'ai l'impression. Enfin, du moins, pas grand-chose de productif. J'étais vraiment démotivée. Ça a été une période assez dure. On n'en est pas sorti, mais ça va mieux. Et donc j'ai pas fait grand chose. J'ai mis beaucoup de temps à répondre à mes correspondants de papier. J'ai pas avancé comme je voulais sur mes projets tricot. Je voulais me refaire une petite session de tricot machine circulaire. Je pensais avoir un peu de temps début janvier, enfin, et en fait ça s'est pas fait parce qu'on a eu une mauvaise nouvelle. Alors rien de grave, je sais pas pourquoi je le dis, ou plutôt je sais pas pourquoi je vous le dis pas, mais en fait c'est encore en cours et c'est compliqué, donc je sais pas trop comment en parler, mais en tout cas ça a des grosses répercussions sur la ferme et sur notre vie personnelle. Voilà. Donc du coup au niveau personnel, ça a été plutôt calme, pas d'énergie, pas d'envie, je sais pas. Ça a été un premier trimestre vraiment bizarre. J'ai pas mal lu, pas autant que j'aurais voulu, mais j'ai quand même beaucoup lu des livres que j'ai beaucoup aimés, donc ça c'est chouette. J'ai quand même fini la couverture de Helga pour ses 5 ans, donc la tradition se perpétue. Donc ça c'est chouette, je lui ai fait une petite couverture, pour un lit, une personne de grand quoi, au crochet avec pas mal de couleurs. Et c'est un des projets qui m'a tenu longtemps. Mais c'est surtout un des projets où j'ai été au bout de mes fils. Et ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Donc, j'ai fait la couverture. J'essaierai de vous mettre des photos ou des liens vers... peut-être je l'avais déjà fait. Enfin, des photos pour vous montrer. En fait, c'est une couverture avec plein de ronds de couleurs accrochés entre eux. Et donc, il me restait des fins de pelotes. C'est les mini pelotes chips de la qualité Katona. Là. Vous avez 103 ou 102 pelotes de couleurs différentes. Et voilà. Et donc, avec les restes de cette couverture, j'ai réussi à lui faire pareil au crochet, une petite housse de coussin avec un motif que j'aime beaucoup. C'est la première fois que je faisais et je le trouve vraiment simple, vraiment, il se mémorise très bien. Il a un super rendu avec des petites chutes de laine, des petits scrappy projects. Et voilà. Et après avoir fait cette petite housse d'oreiller, il me restait encore du fil, mais pas beaucoup. Donc j'ai fait une pelote avec toutes ces bouts de ficelle attachés entre elles avec un petit nœud magique. J'avais découvert ça il y a quelques années maintenant dans le podcast de Little Bobbin's Knit. Donc je crois qu'elle n'en fait plus. Mais en tout cas, c'est un des premiers podcast tricot que j'ai regardé et je suis toujours très nostalgique d'en revisionner des anciens. Ça me fait penser à des périodes de ma vie, à des sensations. C'est super chouette. Et enfin, donc dans ce podcast, elle faisait une pelote de laine avec des chutes de fil et elle les attachait entre elles avec ce qu'elle appelle un nœud magique. Donc en fait, avec deux bouts de fil, Avec le fil numéro 1, vous faites un nœud autour du fil numéro 2. Et avec le fil numéro 2, vous faites un nœud autour du fil numéro 1. Vous serrez, vous coupez ce qui dépasse et ça tient et c'est très, très solide. Et donc là, je suis en train de lui faire un... Pareil, je pense que je ne sais pas encore si ça va être une housse d'oreiller parce que ça me semble un peu petit. Ce sera peut-être une couverture pour ses poupées, je ne sais pas. Donc je suis en train de faire une sorte de granny square avec tout ça. Donc là, c'est un autant les Sunburst Square, Granny Square était très beau et ça rendait très bien, je trouvais, un projet avec plein de fils mélangés. Autant là, je suis très contente parce que j'utilise vraiment les derniers centimètres du coton de sa couverture, mais le rendu est moins sympa. Donc voilà, on va voir ce qu'on va en faire, mais en tout cas, voilà pour les projets. Je tricote plus en ce moment, ni à la main ni à la machine. J'écris très peu, je lis mais à deux à l'heure. et voilà. Et je fais très très peu de cordes à sauter. C'est un peu passé, mais là j'ai envie de reprendre la course à pied parce que les chemins sont secs, il fait beau, le jour se lève tôt. Donc je me dis que c'est un petit peu le moment de reprendre la course avec Lopi qui s'est un peu empâtée aussi durant l'hiver. On travaille moins quand les brebis sont à l'agnelage du coup. Il y a encore des lots dehors, des petits lots dehors, mais c'est moins... on travaille moins. Donc voilà pour les nouvelles de ce premier trimestre 2022. Donc ça va, mais petite énergie, on reprend du poil de la bête avec les jours qui rallongent, le soleil, l'herbe qui pousse, l'énergie renaissante se communique à moi. Voilà, bon ben je vous dis à plus tard, je vais renrouler mes filets et puis après j'irai rentrer mon deuxième lot d'agnelage qui pâture un tout petit peu dehors avec les petits agneaux et voir s'il n'y en a pas des nouveaux. Donc je les ai sortis juste à la journée pour une petite transition à l'herbe toute douce. Et donc là, ils sont rentrés. Oula. Et elles appellent leurs agneaux. Voilà. Elles vont boire un petit coup. J'ai mes petits biberons dans les pieds. Mais oui, mais toi, t'as déjà tété. Et voilà. Et là, c'est une belle soirée toute calme. L'étang est... La surface de l'étang est toute lisse, il y a le soleil qui va bientôt passer derrière les monts de Blond. Ah, il y a un petit... C'est quoi ? Une hirondelle qui est posée. Ah non, pardon, c'est un rouge queue qui était posé sur le fil. Bon, bonne nuit les filles, à demain. Ok, alors c'est bientôt la fin de la journée. Je suis dans le poulailler là. J'ai ramassé les œufs. J'ai remis un petit peu de grain aux poules parce que j'ai l'impression qu'elles ont assez faim le soir. Il n'y a plus beaucoup d'herbe. Donc là, je leur mets un peu de grain. Il y a une grosse baisse de production qui était relativement bienvenue parce que je commençais à avoir trop d'œufs par rapport à la vente qu'on pouvait faire à la ferme. Et puis, là, c'est reparti. Oh, il y a un mini œuf. Trop mignon. C'est reparti, du coup. Donc, c'est chouette. Elles n'ont pas trop baissé durant l'hiver. Les dernières semaines, ça a baissé un peu parce qu'il y en avait pas mal qui avaient envie de couver. Du coup, voilà. Hop là. Alors là, j'ai toujours mes pondoirs, mes caisses en fait en bois, mais j'ai vu des pondoirs assez bien fait. Ça s'appelle des pondoirs en fait semi-automatiques. Et j'avoue que j'ai pas envie de me mettre à bricoler ça. En fait, je pourrais le faire avec Hugo qui pourrait m'aider en bois. Mais là, j'en ai vu des assez bien qui étaient en galvanisé. Donc en fait, très pratique à laver. Donc pour l'instant, je regarde. C'est pas prévu qu'on investisse là-dedans, mais c'est une référence que je vais garder en tête parce que ça me plaît bien. En fait, ce qu'on appelle des pondoirs semi-automatiques, c'est des pondoirs donc normaux, des sortes d'étagères avec des petites cases pour que les poules se mettent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le... Ah, ça se bat pour le grain. C'est que le fond est légèrement incliné, en fait. Et donc, une fois que la poule a fait son œuf, eh ben, l'œuf roule tout doucement vers le fond ou le devant, ça dépend de l'option que vous prenez, du pondoir. Et il est sous une petite casquette, en fait, ou en bois ou en métal, ça dépend. Et du coup, il est protégé, quoi. Donc, les poules ne peuvent pas se remettre dessus pour repondre. Voilà, donc ça fait des œufs relativement propres. Alors après, les œufs propres, bien sûr, ça dépend des nids. Faut que les nids soient impeccables, évidemment. Mais ça dépend aussi de, comment dire, vos accès au nid. Donc moi, pour l'instant, j'ai une rampe en bois. Et c'est pas top top. Faudrait que je fasse une sorte de rampe, mais plutôt avec du grillage assez fin, disons de 1 cm, pour que, en fait, en montant, ce grillage fasse un petit peu comme un paillasson. Donc ça, faut que je me bricole ça pour que les œufs soient encore beaucoup plus propres. Et évidemment, ça dépend aussi un peu de la saison. C'est vrai qu'il y a des périodes où il pleut, par exemple, ou des choses comme ça. Et là, c'est vrai que c'est plus difficile de maintenir le poulailler propre, malgré qu'il y ait des accès. On va fermer le volet. Des accès plus ou moins durs, en fait. Des fois, quand il pleut, ça salit très vite le poulailler. Donc, il y a des petites astuces et voilà. Ah, ça y est, la journée est finie. J'ai été m'asseoir sur le gros bout de bois au milieu de la digue de l'étang. C'est un petit coin qu'on aime bien avec Hugo et Helga. Parce qu'on est juste assis, il y a juste un piquet derrière pour qu'on s'adosse et on regarde le paysage. Alors il y a juste la digue, le chemin devant. Après il y a des jolis carex. L'étang. Le fond de l'étang, la queue de l'étang on appelle ça. Avec des petits îlots de saules. Et puis derrière il y a les monts de Blon. Avec sur la crête plutôt des plantations de conifères et dans les pentes, c'est plutôt du feuillu. Il y a des chênes, des châtaigniers, quelques bouleaux. Et voilà. Et juste derrière moi, là où je suis adossée, il y a trois gros chênes et un tilleul et plein d'aulnes. Et là, tout est en train de s'ouvrir. Il y a déjà pas mal de feuilles. Les saules sont déjà bien bien partis. Il y a les ronces aussi, avec leur couleur assez, assez tendre, que les brebis aiment bien. En début de saison, elles aiment bien grappiller quelques feuilles de ronces. Et voilà, et les oiseaux qui chantent. Oh, et puis il y a deux corneilles qui sont envolées. Je vais rester là un petit moment, en fait, parce que Hugo s'occupe de la belette, et puis moi... J'ai fini ce que j'avais à faire au mouton. Et puis j'attends que le soleil se couche un peu plus. Et puis je vais aller fermer les poules. Ah, il y a des hirondelles. Elles sont arrivées assez tard cette année, enfin par ici. Je dirais la semaine dernière. Mais là, elles sont arrivées. Donc c'est chouette. Je ne sais pas si vous pouvez entendre les oiseaux. Il y a le ruisseau qui coule aussi. Et c'est tout calme. Ah. C'est vraiment une vie que j'adore vraiment. Il y a une période un petit peu d'incertitude.
Mais en tout cas, ça, c'était vraiment quelque chose dont j'ai pas douté, que cet endroit me plaisait et ce que je faisais me plaisait. Et ça, c'est une richesse rare, je crois. Et c'est marrant parce que, pour différentes raisons, on parlait d'avoir deux vaches. Enfin, pour différentes raisons, pour une assez importante, c'est que donc on est en élevage ovin en bio. Et tous les ans, je fais quelques biberons. Il y a une année, je crois, où j'ai réussi à faire zéro biberon. Et quand je dis ça, c'est pas que toutes les brebis avaient suffisamment de lait, que tous les agneaux étaient suffisamment forts, c'est que j'ai accepté d'avoir plus de pertes. Et ça a été pas facile, faut avoir le cœur un peu serré, j'avoue. Et en fait, donc cette année, j'ai pas mal de biberons. Et on a eu notre contrôle bio il n'y a pas longtemps, et en fait, le contrôleur nous a dit que la réglementation avait changé, ou du moins était en train de changer. On ne sait pas trop exactement ce qui va en sortir et surtout ce qui va être décidé, c'est pas encore fait. Mais en tout cas, donc là actuellement, je donnais du lait en poudre conventionnel, donc non bio. Et mes agneaux pouvaient être de nouveau certifiés en bio 6 mois après leur sevrage, avec du lait conventionnel. Donc là, le lait conventionnel serait interdit. Il faudrait plus que utiliser du lait biologique. Donc le problème aujourd'hui, c'est que le lait biologique est assez difficile à trouver, et pas disponible dans les coopératives agricoles. Ça commence à arriver, mais c'est assez long. Les formules sont pas tout à fait au point parce que il y a certaines choses qu'ils ne veulent plus mettre, comme des vitamines ou ce genre de choses. Donc en fait, il faudrait acheter du lait en poudre bio plus des compléments vitaminés pour ce qui n'est plus mis dans le lait en poudre. Voilà. Et donc bien évidemment, le prix du lait en poudre biologique, ça a un certain coût, beaucoup plus qu'un lait en poudre conventionnel. Ça devait être à partir de cette année, c'est pas encore décidé, c'est pas encore arrêté, mais ce qui se dessine en fait, c'est que si j'utilise pas du lait biologique, les agneaux ne reviennent jamais dans le cycle biologique. Ils sont sortis. Je pourrais jamais les valoriser en bio. Et il est même discuté de déclasser tout le troupeau en fait. Donc voilà, la réglementation se durcit. J'ai pas trop creusé le sujet, mais voilà, ça va être une autre contrainte et une autre problématique à gérer. Et voilà, et on a dit en rigolant avec Hugo, faut qu'on aille acheter du lait à... Il y a des voisins éleveurs de vaches laitières, et on leur a dit, faut qu'on aille acheter du lait. Et puis en fait, en faisant un petit peu les calculs, si t'as 10 agneaux, par exemple, au biberon, ça te fait 10 litres par jour, fois 3 mois, voire 4 mois, c'est quand même assez... Donc ça représente une somme, et surtout ça représente une organisation et une manipulation assez contraignante. Quoi. Donc on s'est dit, pourquoi pas avoir une vache, quoi. Et puis, une vache toute seule, je pense que ça s'ennuie, même avec des moutons. Donc pourquoi pas en avoir deux, quoi. Donc voilà, l'idée est partie de là. Et ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, mais... Moi, j'adore les vaches. J'ai commencé l'agriculture dans l'élevage de bovins laitiers. Et c'est vraiment un animal que j'aime beaucoup, physiquement, de caractère. Et c'est une bête, je sais pas, qui est vraiment sereine. Enfin, ouais. Je trouve qu'elle fait beaucoup de bien à vivre à côté. On en est là de notre réflexion. Donc, pareil, c'est très long terme. Ça se fera, ça se fera pas. Mais voilà. Donc, on voudrait avoir une ou deux vaches pour donc les traire occasionnellement, pour les biberons et pour nous, et laisser le veau en dessous, quoi. Et voilà. Peut-être une vosgienne, peut-être une normande, je sais pas. J'adore les vaches. Et en fait, c'est marrant parce que je suis tombée sur... Des fois, c'est très marrant. Vous pensez à des choses et... Internet vous propose des ressources, mais au hasard. Enfin, j'avais rien cherché de vache laitière, de faire son fromage à maison, de gnagnagna. Mais bref, je suis tombée sur une dame qui a des vaches laitières. Je crois que c'est une américaine, je sais pas, Canada. Et elle a dit une chose qui est tombée vraiment à pic. En fait, elle a dit que, en gros, sa vie et son mode de vie, qui peut paraître très contraignant avec beaucoup d'astreintes pour les personnes qui ne le vivent pas, ne le connaissent pas. Ou... Et bien, pour elle, en fait, c'est sa liberté, quoi. Et je me suis dit, mais c'est vrai que dans notre société, un petit peu de... où on valorise le temps libre, enfin, surtout le loisir, en fait, le loisir et la consommation, je pense que c'est très lié, parce que c'est pas vraiment des temps de repos, les temps libres, on veut toujours les remplir de quelque chose. Enfin bref. Et la réflexion de cette dame m'a vraiment marquée, et je me suis dit, mais c'est vrai que, donc quand t'as une vache, c'est une astreinte, ou des animaux, ou des cultures, enfin bref, une ferme quelconque. C'est vrai que c'est une astreinte ben, vraiment quotidienne, quoi. Mais est-ce que c'est pas ma forme de liberté? Et ça, ça m'a marqué et j'y réfléchis. Et c'est vrai que c'est la vie que je veux depuis longtemps. C'est celle que j'ai depuis longtemps aussi. Mais d'avoir ce regard et de se dire, ben, je suis heureuse, mais c'est aussi là que j'ai ma liberté. Avec toutes les contraintes qu'il peut y avoir, hein. Je dis pas que des fois j'ai pas envie d'un jour de congé ou de quelques jours de vacances, mais dans le quotidien, je suis très libre en fait. Et plus on fait les choses par nous-mêmes et plus on utilise les ressources autour de nous et plus on emploie notre temps à faire ça. Eh bien, je trouve que plus on gagne en liberté, quoi. Et ça, ouais, ça m'a vraiment marqué. Et c'est une phrase que j'ai lue au bon moment et je me suis dit, ben ouais, c'est vrai. C'est la liberté totale. Donc voilà, j'en suis là de mes réflexions sur ma vie à la ferme et ce que ça m'apporte. Ce qui est sûr, c'est que ça va encore durer quelques années. Et puis aussi, ce qui est bien, c'est que on a quand même acquis une certaine expérience. On est dans une sorte de routine, même si, attention, en agriculture et je dirais dans la vie en général, en fait, rien n'est jamais acquis. C'est vrai que tous les ans, il y a un annuelage. C'est vrai que tous les ans, il y a les foins. C'est vrai que tous les ans, il y a la récolte des patates. Mais c'est jamais la même chose, parce que le temps n'est pas pareil, parce que nous, on n'est pas pareil. Il y a des années plus ou moins faciles et c'est vrai qu'il faut rester humble parce que on maîtrise pas grand-chose finalement. On essaie de maîtriser un peu pour produire de la nourriture, mais on est très dépendant du temps qu'il fait chaque jour. On est très dépendant de... Oh là là, il y a un... Je sais pas ce que c'est comme insecte. Il vient de s'envoler. Oh, mais il va... Oh, ah, trop bien. Ah, je sais plus ce que je disais. Bon, enfin bref, faut rester libre et rêver grand.